Bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux de participer à cette nouvelle édition du Printemps Agile et de venir partager une expérience agile qu'on a pratiquée chez Forestia. J'aimerais commencer cette intervention par une petite anecdote pour introduire un peu mon sujet. Il y a 2 ans, quand on m'a demandé de mettre en place l'Agile pour les projets innovation, après avoir décidé de lancer un projet pilote, j'ai rassemblé ce qu'allait devenir la première équipe Agile pour faire une réunion de lancement de projet, un kick-off pour expliquer les enjeux de ce projet-là, de cette approche qu'on voulait en tirer et de partager un peu sur comment on allait fonctionner ensemble avec ces méthodes agiles. On avait préparé, le Scrum Board était préparé, les post-it avec les collègues du site, alors c'était sur le site des Tempes en région parisienne, avec les collègues on avait pensé à plusieurs pratiques qu'on voulait mettre en place dans le cadre des Daily Scrum, notamment c'est celui qui a la balle qui parle par exemple. On avait pensé à tout plein de petites pratiques comme ça qu'on voulait mettre en place. La réunion s'est au global très très bien passée. Seulement, à la fin, il y a Jacques. Je vous présente Jacques. Jacques est un concepteur brillant. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la boîte. Il connaît le métier du siège parfaitement. Et Jacques vient à la fin de la réunion, en aparté, il vient me dire « Tu sais, Djellali, j'ai plus de 30 ans d'ancienneté dans la boîte. Le métier du siège, moi, ça, je connais parfaitement. Tu sais, je fais un métier sérieux. Jouer avec des post-it et jouer à la baballe, j'ai passé l'âge. » À ce moment, je me suis dit quand même que ça allait être compliqué de mettre l'agile au sein des projets. C'est ce même Jacques qui, 4 mois plus tard, lors d'une revue avec le top management, où on présentait un peu les premiers résultats sur l'approche. Et quand Jacques a été interpellé par le management, Jacques a répondu ceci. On a réussi, grâce à l'agile, à faire en 4 mois ce qu'on n'a pas réussi à faire en 2 ans. Alors c'est le sujet que je vais essayer de vous présenter. On va essayer de décrypter ce qui s'est passé dans la tête de Jacques pour qu'il arrive à cette conclusion-là, alors qu'au début, ce n'était pas forcément gagné. Alors je me présente quand même. Je m'appelle Djellali Attaf. Je suis responsable de la qualité innovation pour Seating. Alors Seating, c'est la division chez Forestia qui développe et industrialise les sièges. C'est de loin la plus grosse division de Forestia. Ça représente à peu près 47 000 personnes sur 110 000 pour le groupe. Seating, c'est 86 à travers le monde et c'est 19 centres de R&D à travers le monde. Responsable de la qualité innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses essentiellement. Ça veut dire je suis en charge d'assurer les bons niveaux de maturité des projets pour passer les différents jalons. Et je suis également en charge d'assurer les bons processus de développement pour supporter les équipes projets à bien développer, à bien dérouler, bien dérouler dans le projet. C'est un peu dans ce cadre-là où on m'a demandé de mettre en place l'agile, déjà d'évaluer ce que ça allait apporter comme valeur ajoutée pour les projets innovation. Ensuite, de structurer, de mettre en place, d'adapter si nécessaire cette activité agile. En ce sens, je suis devenu également agile manager, je ne sais pas si ça se dit, ou responsable agile, je ne sais pas trop si ça se dit. Pour comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Jacques, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le monde de l'automobile. Alors, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que aujourd'hui, l'automobile est en train de vivre certainement sa plus grande révolution qu'elle n'ait jamais connue. Elle est en train de vivre sa plus grande transformation avec plusieurs nouveaux courants qu'il faut qu'elle se doit d'intégrer. Internet, connecté, on est tout le temps connecté, toujours plus, tout devient connecté, la voiture devient un produit connecté. La voiture devient un produit connecté, ça va impacter fondamentalement les interactions entre les occupants de la voiture et la voiture, la façon dont on va échanger, la façon dont on va commander la voiture. Et donc, par voie de conséquence, ça va impacter fondamentalement l'habitacle de la voiture, la cabine. L'avènement de la voiture autonome. Donc là, par définition, l'occupant ne sera plus focalisé, concentré sur son trajet, sur sa route. On aura plus de temps pour se reposer, se lire, regarder sa tablette ou son téléphone, faire autre chose. C'est-à-dire que là, on va vivre des nouvelles expériences dans l'habitacle, dans la cabine. Il y aura des nouvelles expériences de vie. Et ça va impacter l'ensemble des services, l'ensemble des fonctions qu'on va retrouver dans cette cabine, dans cet habitacle. Le partage, le véhicule partagé, avec l'Uber, le covoiturage, c'est une tendance qui va faire que de s'accroître et de s'accélérer. Donc on va se retrouver dans la voiture avec des personnes qu'on connaît plus ou moins, avec qui on a plus ou moins envie d'échanger. Donc il faut que, en ce sens, que la cabine puisse s'adapter à ces nouvelles configurations, qu'elle puisse offrir des configurations à travers lesquelles on a envie de se préserver ou on n'a pas forcément envie d'échanger avec la personne qui est à côté de nous ou au contraire favoriser l'échange. Et enfin, une transformation écologique avec les voitures électriques. Pardon. La voiture électrique, à notre niveau, ça va impacter beaucoup l'architecture de la voiture. L'architecture de la voiture et par voie de conséquence, l'architecture de la cabine, l'architecture de l'habitacle. D'accord ? Donc au final, l'habitacle, cette cabine-là, va fondamentalement se transformer. C'est le sujet du cockpit du futur qu'on est en train de développer chez Faurecia. D'accord ? Le cockpit du futur, c'est ça. Alors, j'ai besoin d'une... Voilà, ok. Le cockpit, c'est ça. Le cockpit du futur, c'est ça. On se reparle dans 2 minutes 55. Normalement, je vais essayer de vous mettre du son. Ça aurait été dommage de ne pas avoir la musique. Voilà, c'est le cockpit du futur en 3 minutes. Alors, si on peut revenir, voilà. Super. Donc là, vous l'avez compris, ce qui est en train de changer, c'est pas uniquement le siège, d'accord ? C'est l'ensemble de l'habitacle. En ce sens-là, notre métier historique était de faire du siège est fondamentalement en train de changer pour reconsidérer non pas seulement le siège, mais l'habitacle complet, l'environnement de l'occupant, avec en premier lieu le siège, bien sûr, mais l'ensemble de l'environnement, l'ensemble du cockpit. Ce qu'on voit également, c'est que on va intégrer de plus en plus de nouvelles technologies, de nouveaux services, de nouveaux concepts, de nouvelles fonctions. En image, ce qu'on a dit, c'est que l'habitacle, il va devoir devenir de plus en plus versatile. Versatile, pourquoi ? Pour s'adapter au profil utilisateur. La voiture étant un produit connecté, l'utilisateur, le profil de l'occupant sera reconnu et les ajustements du siège, de l'habitacle, des rétroviseurs vont se faire automatiquement grâce à la voiture connectée, on va dire. Les profils de musique, les playlists, tout ça seront automatiquement uploadés. Également. Dans l'environnement covoiturage, ce qui est important, c'est d'adapter l'habitacle pour avoir soit des zones de retrait, plus propices pour travailler ou se reposer, ou tout simplement pour pas forcément échanger avec une personne qu'on ne connaît pas à côté. Ces environnements. Ces espaces, ces environnements seront dédiés physiquement, mais aussi phonétiquement. Ça veut dire que là, il y a plusieurs projets aujourd'hui qu'on est en train d'intégrer pour constituer ce qu'on appelle des bulles phoniques. Ça veut dire que chaque occupant aura la capacité d'écouter sa musique préférée sans que le voisin n'entende ce qui se passe. On pourra, par exemple, envisager. Normalement, j'ai un curseur qui doit fonctionner. Voilà. On pourra, par exemple, envisager de faire des téléconférences, des conférences téléphoniques, et sans déranger les voisins. Ça impacte. D'intégrer des nouvelles technologies, on comprend bien qu'on est très loin de notre métier historique du siège. Là. On est très loin de notre métier historique du siège. On est en train d'embarquer énormément de nouvelles technologies, de nouveaux services, des nouvelles configurations qui n'existaient pas jusque-là. De même, avec la voiture autonome, l'idée, c'est d'avoir des zones de repos, des zones de confort. On sera plus concentré sur la route. Donc là, les sièges vont offrir des fonctions de relaxation, comme du massage, il y en a d'autres. Tout en conservant ces bulles phoniques pour écouter sa musique de relaxation préférée sans déranger les voisins. Et enfin, dernier exemple, je crois. Ou justement partager, être un peu plus dans un mode salon, pour partager quelque chose de commun, soit une conversation, ou partager un film sur l'écran. Le tableau de bord, en fait, devient un écran géant et partager un film. Voilà. Donc là, c'est justement favoriser le partage. Donc à ça, on comprend bien, encore une fois, et ça, c'est fondamental pour la suite, qu'on est à des années-lumière quand même de notre métier historique du siège. Et c'est cette composante-là qu'il a fallu intégrer. C'est ça qu'il a fallu intégrer. C'est-à-dire qu'on a un cadre de travail qui est complètement nouveau aujourd'hui. C'est-à-dire que jusque-là, notre métier, c'était, on avait notre record d'expertise pour faire du siège, hein, qui était centré sur l'emboutissage, la semi-découpe, le traitement thermique, l'assemblage. D'accord ? Et en face, il y avait un client qui voulait développer une nouvelle voiture, d'accord, et qui savait exactement ce qu'il voulait, hein, pour sa nouvelle plateforme ou sa nouvelle voiture. Et nous, grâce à notre expertise, bon, on savait bien répondre à ça. Ça, c'est le schéma historique. D'accord ? Aujourd'hui, le schéma, il est complètement différent. L'expertise, à travers les projets ou les innovations qu'on est en train d'intégrer, cette expertise-là, elle n'est pas mature chez Faurecia. Elle existe, elle est mature quelque part dans la nature, d'accord ? Mais elle n'est pas intégrée. Hein ? Elle n'est pas intégrée. En face, le client, tout le monde a une orientation partagée, on va faire la voiture autonome. Les orientations globales, les macro-orientations sont partagées, sont à peu près définies. Mais au détail, personne, d'accord, sait à quoi vont ressembler ces voitures. C'est une vision qui se construit au fur et à mesure. Pourquoi elle se construit au fur et à mesure, cette vision-là ? C'est, on est en train de vivre quelque chose de très particulier en ce moment-là. Il n'y a jamais autant de nouvelles technologies qui se déversent sur le marché. Et notre vision, au final, en fait, a s'enrichi au fur et à mesure de ces nouvelles technologies. Hein, il y a des nouvelles technologies, on dit « Ah, mais ça, c'est important, ça serait bien d'intégrer ça. Ah oui, mais ça, il faut absolument avoir ça. » Et en fait, c'est une vision qui se construit au fur et à mesure, en fonction des nouvelles technologies, des nouvelles inspirations sociétales et tout ça. Donc, en fait, le client construit, découvre au fur et à mesure ce qu'il veut. Le comment, eh ben, l'expertise, on ne l'a pas. Elle existe, on l'intègre. Faurecia a racheté énormément d'autres compagnies pour intégrer ces nouvelles technologies. Mais tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Et tout ça, c'est à des années-lumière de nos métiers historiques. Et ça va continuer à changer. On est dans une dynamique de changement. Hein, l'histoire, elle est pas figée. On est vraiment dans une dynamique de changement, dans une dynamique de transformation. Et ça, c'est une composante d'entrée. C'est une donnée d'entrée. Ça ne sert à rien de lutter contre. Ah non, mais le client, il a dit qu'il voulait un siège comme ça, donc on lui a bien répondu un siège comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut intégrer. On sait que tout au long du développement, eh ben, ça va changer. Les exigences, les demandes, les besoins vont changer. Et ça change complètement la façon de développer, dont on doit développer ces innovations-là. On est dans un environnement complexe. Très complexe. Alors j'aime bien ce graphe. J'aime bien ce graphe parce qu'il permet de décrire où on était et où est-ce qu'on est maintenant. On peut décrire la complexité, je pense, en ce qui nous concerne, pour les métiers, pour ce qu'on est en train de développer. Hein, d'accord ? Ce n'est pas une définition de la complexité. D'accord ? Mais en ce qui nous concerne, la complexité va être impactée par deux paramètres. Les technologies et les demandes clients. Ce qu'on voit, c'est que plus les technologies, je cherche mon bouton, voilà, normalement on devrait voir, et ça ne marche pas, donc je me rapproche. Si, on le voit, il est en dessous, c'est moi qui ne sais pas viser. Ok. Dans les technologies, donc plus les technologies sont maîtrisées, et que le client sait exactement ce qu'il veut. Hein, les besoins sont clairement définis. D'accord ? On est dans ce qu'on faisait il y a 20 ans dans l'automobile. On maîtrise On maîtrise nos technologies, l'emboutissage, la semi-découpe, l'assemblage. Et le client, enfin, si c'est, bah oui, veut faire une nouvelle voiture avec un siège qui fait comme ci et comme ça. Et ça, on sait répondre. Et pour ça, dans l'automobile et chez Faurecia aussi, on a une approche qui est redoutable. Hein, on a un processus de développement qui est tout simplement redoutable. Et avec lequel on sait faire de la très grande série et dégager beaucoup de marge. Donc dans cette configuration-là, à mon sens, il y a quelque chose qui a fait ses preuves. Il ne faut pas essayer d'aller chercher à user le soleil. Moins les technologies vont être maîtrisées. Bon, je prendrai une formation de laser plus tard. Moins on va maîtriser nos technologies et plus les demandes clients ne seront pas claires, plus on va naviguer en eau trouble, plus on va se retrouver dans un domaine complexe. C'est là où on est aujourd'hui dans nos innovations. Le cockpit du futur, c'est typiquement dans cet environnement qu'il faut travailler. Et c'est exactement là où on attend l'agile, où l'agile devrait apporter le maximum de valeur ajoutée. Ceci, c'est notre processus de développement en innovation que j'ai synthétisé. On ne va pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est que on a des phases qui durent entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour certaines. Et on va passer normalement des jalons à la fin de chacune de ces phases-là pour évaluer la maturité des projets. Et le jeu de ce processus de développement, c'est qu'il y a plusieurs délivrables organisés par métier. D'accord ? Et chaque métier doit délivrer. Et pendant les jalons, on juge, on évalue si c'est mature ou pas pour passer à l'étape d'après. Ça, historiquement, ça découle de ce qu'on savait bien faire. Ça découle de notre processus redoutable qui fonctionnait bien dans cette zone-là. D'accord ? On a essayé de refaire une recette en innovation avec une recette qui fonctionnait bien, mais dans un cadre différent. Le cadre a fondamentalement changé. On a essayé de récupérer la même recette. Alors, des fois, ça marche. Mais souvent, la machine est bridée. Et elle est bridée très, très tôt. Très tôt, dès les premiers jalons. Savoir qu'on bloque parce que ce qu'on demande, ce qu'on exige à travers ces processus de développement, c'est pas en phase avec ce qu'on obtient comme résultat. Ben oui, parce qu'on est dans un environnement flou, tout n'est pas clairement défini. Et nous, dans ce processus-là, dans notre région que j'ai qualifiée de simple, dans notre graphe, tout est bien défini. Tout est bien défini. Et on sait comment faire. D'accord ? Le cadre est différent. Le processus ici se bride rapidement. L'idée, c'est de le flexibiliser. Alors, bien sûr, l'idée, c'était de le flexibiliser avec l'agile, en y intégrant quelques gènes d'agile, on va dire. D'accord ? C'était la grande idée. Comment faire ? Donc, après avoir fait quelques projets pilotes, ce qui me semblait important, capital, à mon niveau, en tous les cas, c'était de structurer, d'identifier ce qu'on allait faire de différent avec cette approche-là, par rapport aux autres. De faire comprendre et d'avoir des règles de fonctionnement sur quel type de projet on doit appliquer de l'agile, comment on doit organiser les équipes, comment structurer un sprint, à quoi ça doit nous servir un sprint. Au-delà des méthodes et nos règles de fonctionnement. Donc ce poster-là, c'est le poster qui aujourd'hui existe sur chaque plateau innovation qu'on va retrouver sur chaque plateau d'innovation. Donc, pour moi, c'est et à la fois un support pédagogique pour expliquer à tous ceux qui font pas forcément, qui vont pas être intégrés encore dans ces équipes agiles, mais ce qu'on fait de différent, d'accord ? Parce que un des plus gros problèmes auxquels je me suis confronté, c'était que au début, il y a 2 ans, tout le monde chez Forestia était déjà expert en agile. Là, on parlait d'agile, tout le monde pratiquait l'agile. C'est un mot qui est très à la mode, très tendance, hein, pas que chez Forestia, je pense un peu partout, on entend partout les mêmes dans j'ai capté quelques publicités où on pousse un peu ces courants-là. Donc c'est très bien. Le mal de ça, c'est que au final, on l'utilise à tort, on l'utilise, on va vendre des on va vendre l'agile à toutes les sauces, et en fait ça on ne sait plus ce qu'il y a derrière. Ce qui était important pour moi, c'était de mettre un cadre, hein, et de clarifier ce qu'on allait traiter, comment on allait le traiter et ce qu'on allait pouvoir en tirer. Qu'est-ce que ça raconte, ce poster ? Donc ça, pour moi, c'était sur quel projet d'abord ? Une des questions que je me suis posée, c'est en innovation, on déroule ça partout ? Est-ce que je pousse pour dérouler ça partout chez Forestia ? Ou bien, ben non, il faut se concentrer d'abord sur une certaine typologie de projet. Ma réponse, c'était la seconde. Il ne faut pas essayer de chercher à user le soleil. Alors, on devrait être capable de l'utiliser sur tous les projets. Mais je pense que là où ça apporte le plus de valeur ajoutée, c'est sur nos projets disruptifs en innovation. C'est là où on a la configuration la plus complexe, où on a vu complètement nos troubles, et c'est là où l'agile va être capable vraiment d'apporter le maximum de valeur ajoutée. L'équipe agile. J'étais confronté à un grand dilemme pour les premiers projets pilotes. D'un côté, pendant les formations, on nous expliquait, bon, idéalement, ce qu'il faut, c'est un projet, une équipe agile en face, à 100%. Et cette équipe, elle est concentrée à 100% sur le projet. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas trop avancé. On est dans une organisation matricielle qui est complexe chez Forestia. Ça veut dire quoi, une organisation matricielle complexe ? Ben, ça veut dire qu'on est organisé et par des métiers et par des projets. C'est-à-dire que sur un projet, les experts métiers ou les fonctions support ou vont avoir des projets partagés. Hein, ils vont être partagés entre plusieurs projets. D'accord ? Alors, il existe quelques exceptions où il y a effectivement des projets où tout le monde est dédié. D'accord ? En général, c'est dans des situations de crise ou dans des projets extrêmement particuliers. D'accord ? Le fonctionnement normal, c'est on est dans des ressources partagées, mis à part le chef de projet, ou en innovation, c'est moins le cas. Le chef de projet gère plusieurs projets également. Donc on est dans des ressources partagées. La question, c'était comment fonctionner avec ça ? D'abord, est-ce que c'est un problème ? On dit, est-ce que c'est un problème ? Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on dit, bah non, nous, on ne sait pas faire agile, on va faire autre chose, ou bien on essaie de fonctionner. Bon. Après quelques projets pilotes, on est arrivé à une configuration qui me semble être pas mal du tout. Voici la première équipe agile qu'on a constituée sur le site des Tempes. Donc on peut reconnaître Jacques quelque part, si vous regardez bien. Dans l'idée que j'ai poussée, C'est d'abord, il faut favoriser la même équipe. Il faut favoriser l'interaction entre les mêmes personnes, pour un moment donné, en tous les cas. Pourquoi ? À mon sens, l'agile, c'est beaucoup une histoire d'état d'esprit d'abord, de culture, d'état d'esprit. D'accord ? Donc, faire baloter quelqu'un d'un projet un peu en mode agile et qu'il revienne sur un projet classique, c'est compliqué. C'est compliqué, on n'en tirera pas toute la valeur, le maximum de valeur, je pense. Donc l'idée, c'était de privilégier l'équipe. On est une équipe agile, d'accord ? Et à cette équipe agile, eh ben, on va s'organiser pour lui faire faire plusieurs projets. C'est ce qu'on a fait ici. Sur le board, qu'on peut voir, c'est pas un projet, c'est les trois projets. Le Daily Scrum, c'est les trois projets. Sur les trois projets. C'était redoutable une fois que ça a été mis en place, une fois qu'on a, bon, on a pas mal hésité. Et au final, quand on a lancé ça, le résultat, c'est redoutable d'efficacité. Redoutable d'efficacité. Un plateau agile, une même équipe, basée sur le même plateau, gérant plusieurs projets. C'est ce qu'on a déployé, c'est ce qu'on a commencé à déployer sur les autres sites. Donc, je n'ai pas dit l'innovation, c'est sur plusieurs sites. Donc, je couvre 7 sites, 8 sites, parce qu'il y a, à côté de Los Angeles, en Californie, il y a un nouveau site où on fait de l'innovation. Donc, aujourd'hui, on déploie ça sur 3 sites, les deux qui sont en France, à Brière, à Flers, donc Caligny, et un en Allemagne, et les autres sont à venir. Les autres sont à venir. D'accord ? Mon ambition, d'ici la fin de l'année, j'en aurai 6 sur 8. Regardons maintenant donc l'équipe. Ok, on a clarifié. L'histoire du sprint. Bon. L'objectif. Non. Quel sens donner au sprint ? C'était un grand dilemme, ça, dans notre fonctionnement. Alors, vous vous rappelez tous du processus de développement que je vous ai montré. Hein ? On a un processus. On a plusieurs livrables. D'accord ? Il y a plusieurs work packages à délivrer à un moment donné. Et ces work packages sont organisés par métier. Comment organiser ce processus de développement versus les sprints ? Ou quel sens donner à ces sprints, je dirais, moi ? Donc, revoici notre processus de développement en y intégrant les sprints. L'idée de base, c'est de redécouper le processus de développement, chaque phase de développement, par itération plus courte, hein, qui s'appelle sprint. Bon. Jusque-là, on n'a rien fait de nouveau. Nos sprints, c'est 4 semaines. 4 semaines, c'est la granularité minimum pour qu'on puisse faire quelque chose dans notre domaine, on va dire. 4 semaines. Quel sens donner à ces sprints ? Parce qu'il y a un risque. Il y a clairement un risque. C'est de faire l'ancienne histoire avec des sprints. C'est-à-dire, on va délivrer des work packages, mais au lieu de se donner rendez-vous dans 6 mois, on se donne rendez-vous dans 1 mois et on regarde les work packages. Je vous dis tout de suite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est le retour d'expérience, le premier retour d'expérience qu'on a eu en Allemagne. Ça ne sert à rien, encore plus. J'ai envie de dire qu'on ralentit la machine. On fait les choses moins bien si on part dans ce mode-là. L'idée fondamentale des sprints, pour moi, c'est de les associer. Est-ce que je dis ça là ? Non, je ne dis pas ça là. Alors, je vais le dire là. C'est d'associer un sprint à un objectif court terme. un objectif court terme. C'est-à-dire on se détache de cette notion de livrable. Mais on va donner un sens au sprint. Qu'est-ce qu'on veut atteindre pour dans un mois, pour dans 4 semaines, à la fin du sprint? De quelle décision? L'idée à la fin du sprint, vous l'aurez compris, mes petits losanges, c'est mes sprint reviews. Hein. De quelle décision j'ai besoin? Ou de quel point j'ai besoin de clarifier? Quel point j'ai besoin de clarifier? Ou sur quel point j'ai besoin de prendre des décisions pour avancer rapidement sur mon projet? Dans les sprint reviews, l'idée, c'est d'inviter tous les clients internes, d'abord, parce que dans une organisation matricielle complexe, il y a beaucoup de clients internes. Il y a beaucoup de lieux, beaucoup de décideurs autour du projet. D'accord ? L'idée, c'est de les mettre autour de la sprint review, pour prendre les décisions qui vont permettre au projet d'avancer plus rapidement. Et au final, nos sprints vont servir à fluidifier la prise de décision. C'est là où elle est, à travers un processus classique, 6 mois, 1 an, 2 ans, et le management décide, bon, c'est bon, ou non, il faut revoir, c'est pas ça qu'on attend, ou c'est pas ça que le marché attend. D'accord ? C'est fluidifier la prise de décision. Pour fluidifier la prise de décision, il faut savoir, il faut avoir des objectifs clairs de ce qu'on veut montrer. Il ne s'agit pas de discuter sur une quantité de work package ou de livrables. Il s'agit de discuter sur des points clés ou des points à clarifier du projet. Alors, pour illustrer ça, c'est ce qu'on fait. Alors, ça, c'est un projet. Alors, je ne peux pas trop en parler. C'est un projet qu'on a lancé il n'y a pas trop longtemps. On a fait le kick-off justement du projet Agile il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit d'un accoudoir. Il s'agit d'un accoudoir voiture, je ne vous en dirai pas plus. Et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on a sur la table. Alors je vais réessayer mon super. Et ça ne marche pas. Voilà. Donc, si, vous le voyez. D'accord. Donc, ce qu'il y a sur la table, c'est plusieurs petits modules. Petits modules faits en bois. Modules faits en bois en mode Lego. Ça veut dire que au sprint zéro, l'idée du sprint zéro, typiquement, ça a été d'arriver à la sprint review, d'accord, en ayant une proposition à valider ou à clarifier en tous les cas avec les clients internes de ce qu'on allait embarquer comme fonction pour ce nouvel accoudoir. Ensuite, l'idée, c'est que, ok, on a clarifié toutes les fonctions qu'on voulait embarquer. On a fait pour ça des user experience, des cliniques. On a fait appel à un panel de personnes qui ont testé les différents modules. On dit, tiens, cette fonction, c'est bien. Ou cette fonction, tiens, positionnée comme ça, ça serait mieux. Ou cette fonction-là. Et on a fait des statistiques pour voir, tiens, pour les utilisateurs, voilà les fonctions qu'il faudrait intégrer. Et ça, c'est complètement nouveau comme approche. Hein, avoir ce genre de maquette très tôt dans le projet. Alors, officiellement, le projet, il démarre ici. Hein, là, on est très en amont dans le projet. Et à ce moment-là, l'idée qu'on est en train de pousser, c'est d'avoir des maquettes très simples, faites de bois, de carton, d'accord, qui ne servent pas à valider les performances de la fonction, qui vont servir à clarifier ce qu'on veut embarquer, à clarifier les objectifs de ce qu'on veut faire plus tard. Ensuite, c'est un accoudoir, on va dire, qu'il y aura plusieurs gammes. Hein, il y aura une entrée de gamme pour une certaine gamme de voitures et une gamme premium pour une certaine gamme de voitures. Donc, on aimerait quelque chose de modulaire au final. D'accord ? C'est l'objet du deuxième sprint. qu'est-ce qu'on embarque pour chacune des gammes, pour chacun des modules? Quelle histoire on raconte pour chacun des modules? Pareil. Et là, on a une décision claire. Une fois que cette décision est claire, on peut avancer. Bon, ok, on a l'histoire complète. On sait tout ce qu'on doit embarquer. On sait ce qu'on doit embarquer par gamme. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de commencer à voir, ok, comment on va structurer ça? Quelle architecture pour pouvoir avoir un accoudoir modulaire? C'est l'objet du sprint. On a un objectif clair à décider. Soit on valide, parce que ça va beaucoup dépendre après de l'habitacle, de la cabine, de l'espace. Donc il y a des décisions à prendre ici. Une fois que ça c'est clair, on continue à avancer avec un autre objectif clair. C'est le concept de la gamme de base, par exemple. Et là, on propose un premier concept sur la base de ce genre de maquette, ou un peu plus évolué à ce stade de la compétition. Et on avance comme ça, avec des objectifs clairs. Ça permet de prendre, d'échelonner la prise de décision avec l'ensemble des clients internes, l'ensemble du management, tout au long du projet. C'est tout simplement révolutionnaire, ça, chez nous. Un autre exemple de ce qu'on peut faire très tôt dans le projet. Alors, normalement, voilà. Ah, non, t'es parti trop. Il faut revenir. Voilà, ok. Voilà. Ok. Donc là, il n'y a pas de musique. Et je ne vais pas chanter. C'est une maquette qu'on utilise maintenant, qu'on est en train d'utiliser de plus en plus pour évaluer les différents besoins, les différentes fonctions, les différents services qu'on va intégrer dans ce fameux cockpit du futur. Ça permet de clarifier les choses très très tôt, très en amont dans le projet. Hein, avoir les idées claires et avoir des supports pour et partager et prendre les décisions. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. La notion de prototype, elle existe bien sûr dans l'automobile, mais elle existe très 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 en aval dans le développement. On fait des prototypes pour valider les performances en général. Pas pour clarifier les besoins, ni pour clarifier les objectifs ou prendre des décisions sur le contenu de ce qu'on va embarquer. Donc là, c'est typiquement, voilà, c'est ce type, avec plein de photos à la fin, voilà. C'est ce type d'approche, d'outils, de méthode hein, qu'on est en train de pousser, que je suis en train de pousser aujourd'hui pour mieux appréhender ou pour fluidifier la prise de décision. C'est ça qui est important. C'est dans la prise de décision. D'accord ? Voilà. Donc, super. Enfin, l'organisation des sprints. Donc, jusque-là, on a clarifié comment faire les fonctionner avec une équipe, comment il fallait construire l'équipe, l'organisation des sprints et quel sens on donne au sprint. Reste à savoir comment on fonctionne dans le sprint chez Faurecia. Donc on l'a dit, un sprint c'est 4 semaines, c'est la granularité minimum qu'il nous faut pour pouvoir délivrer quelque chose, on va dire. L'idée ici, c'est que pendant le sprint, on ne perturbe pas l'équipe. Principe de base. Hein, principe de base, mais c'est ce principe-là. C'est ce principe-là qui a permis de délivrer sereinement et efficacement des maquettes ou d'arriver à enchaîner certaines prises de décision. C'est au final cet aspect-là qui a le plus plu à Jacques. Jacques, il était enfin tranquille et enfin concentré sur ce qu'il avait à faire. Pourquoi ? C'est notre organisation matricielle hein, qui est complexe. Sur un projet, il y a plusieurs décideurs. Et ce qui s'était passé pour les 2 ans qui précédaient ce projet pilote en Agile. Donc, l'équipe développait un accoudoir. Alors, ça n'a aucun rapport avec celui dont je vous ai montré. Et ils développaient hein, en ayant penser qu'ils avaient compris ce qu'il fallait faire, d'accord, au regard des besoins d'un des décideurs. Donc ils ont développé. On présente à l'ensemble des décideurs, à d'autres décideurs, les autres décideurs. Ah oui, mais non, c'est pas ça. Le marché, il a pas besoin de ça. Le marché, il a besoin d'autre chose. Ah, il faut refaire. Bon, bah, ok, on va refaire. Donc on refait. Et à la fin, le troisième décideur arrive en disant bah oui, mais non, en fait, c'est pas comme ça. C'est différent. Il faut faire autre chose. Et on refait autre chose. Et on a fait ça pendant 2 ans. On a fait ça pendant 2 ans. Résultat des courses, pendant ces 2 ans, c'est passé quoi ? 1, on a dépensé beaucoup d'argent. L'équipe a travaillé 2 ans en dépensant beaucoup d'argent pour rien. 2, pendant ces 2 ans, il n'y a eu aucune décision ou conclusion ou orientation partagée. Le mot qui est important, c'est partager. L'avantage des sprint reviews, c'est d'assurer que les décisions vont être partagées. La décision d'une personne, si elle n'est pas partagée, elle ne sert à rien. On est quasiment sûr qu'on va refaire le travail à un moment donné. D'accord ? Ça, c'est induit par notre organisation. Il faut s'assurer que les décisions soient bien partagées. Quand les décisions sont bien partagées et qu'on travaille sereinement pendant 1 mois sans qu'on soit pollué par tout plein de demandes, par tout plein d'autres interlocuteurs ou décideurs ou tous les 2 jours, eh ben, on arrive à se concentrer et à délivrer très rapidement. C'est ce qu'on a fait. C'est cet élément-là qu'a conduit Jacques, qui était plutôt réticent, d'accord, et qui est devenu très moteur, et qui a énormément valorisé l'approche après cette première expérience. Voilà pour l'histoire de Jacques. Voilà pour la première phase de... d'intégration de l'agile pour les projets innovation. Alors ça se fait pas que au niveau de l'innovation, mais je parle de mon secteur, voilà, chez Faurecia. Alors je pense qu'on a encore du temps. Si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre.
Donc là, tu as parlé des objectifs qui sont définis dans chaque début de sprint, ou chaque, c'est ce que tu appelles les sprint review, c'est ça? Ou non, le sprint review, c'est à la fin de ce sprint. Comment après, c'est toute l'équipe qui choisit donc les objectifs, et il y a des objectifs qui peuvent pas être forcément réalisables, ou il y a un autre sprint qui se fait.
On est dans une approche itérative. Ça veut dire quoi? Je reviens à mon histoire là pour illustrer. Les premières phases, on les a définies, on les a validées lors du kick-off, lors de la réunion de lancement. On savait que le premier sprint, on s'est dit, ben, ça serait bien avant de clarifier un peu les objectifs du projet. C'est un peu l'objet du premier sprint. On se prend un sprint seulement pour essayer de définir les fonctions qu'on va embarquer et tout ça. D'accord. Mais on sait qu'on va vouloir faire quelque chose de modulaire, donc il faudrait avoir une vision sur, tiens, qu'est-ce qu'on fait module par module. D'accord. C'est-à-dire que les premiers objectifs, je pense qu'on s'est arrêté à là pour les premiers. Voilà. Les trois premiers objectifs, lors du kick-off, on avait rassemblé le management, l'équipe, donc qui ont été pensés avec l'équipe. On s'est dit, bon, comment on s'y prend, par quoi on commence et tout ça. Et avec l'équipe, on a décidé de ça. On a fait valider ça par le management. On s'est dit, bon, on y va comme ça. Et on se donne rendez-vous dans 4 semaines, ici, pour la première sprint review. Et ici, ben, on décidera, on validera les fonctions que nous, on aura analysées à travers nos user experience. D'accord. Après, l'histoire, elle s'enrichit. Hein. Je veux dire que à chaque sprint review, donc là, on reste concentré sur notre objectif. L'idée, c'est de délivrer. Alors, la sprint review, ici, eh ben, il y a une partie où on valide, on regarde les résultats, on va dire, d'accord. Et une partie où on prépare, on va commencer à préparer les prochains sprints. D'accord. Et c'est là où on redéfinit plus finement les objectifs. Dans l'hypothèse, je vais anticiper ta question. Dans l'hypothèse, tiens, on en est là, on fait le premier concept. On arrive, le concept, ça ne plaît pas du tout, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire autre chose. Ben, le sprint d'après, c'est pas le module 2. D'accord. C'est la révision du concept 1. D'accord. Là, c'est le macro schéma. C'est la macro séquence qu'il va falloir assurer pour avoir une histoire cohérente, hein, pour notre AMREST accoudoir. C'est clair. Est-ce que j'ai répondu?
Oui, voilà. Et il peut y avoir le concept, par exemple, module 1 qui peut s'échelonner sur plusieurs sprints.
Ouais, complètement. Hein, ce qui est important, c'est d'avoir comment on va structurer un peu nos sprints, de quelles décisions on aura besoin. En fait, c'est ça. C'est quelles décisions on aura besoin pour avancer. D'accord. Alors, les décisions, bien sûr, on n'est pas capable de se dire au début du projet toutes les décisions qu'il va falloir prendre tout au long du projet. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui va se construire. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que quand on est là, à chaque fois, au début, ce qui est impératif, sans quoi, à mon avis, ça ne sert à rien de commencer un sprint. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut décider, qu'est-ce qu'on veut clarifier à la fin de ce sprint. Si on a un peu plus de vision sur le sprint d'après, c'est mieux. Mais c'est pas bloquant, j'ai envie de dire.
Moi, j'avais une question par rapport à... Donc, tu as parlé tout à l'heure, enfin, je te dis tu. Mais...
Ouais, pas de souci.
Tu as dit qu'en fait, tu avais une équipe de développement qui travaillait sur 3 projets en même temps.
Ouais.
Donc là, tu nous as présenté un planning de réalisation d'un projet.
D'un projet, oui.
Ouais, donc comment justement on gère ça? Parce qu'effectivement, ça pourrait être une des problématiques que nous, on pourrait rencontrer si jamais on mettait de l'agile. C'est-à-dire qu'on est amené à travailler sur plusieurs projets en même temps.
Ouais.
Donc comment on s'organise dans ce cas-là et comment on fait?
Eh bien, donc cette équipe-là, Je vais répondre en deux fois. C'est qu'un projet ne permet pas d'occuper l'équipe à 100%. Premier niveau de réponse. D'accord. Puisque normalement, hein, on est sur des ressources partagées. D'accord. Donc, mécaniquement, ça n'occupe pas. Et il y a des temps de fabrication, des temps de réalisation. Hein, on est dans une grosse machine qui prennent du temps. C'est-à-dire que souvent, on fait des choses, après, on attend. Après, on fait sur le même projet, je veux dire. D'accord. Et pendant ces phases où on fait, je ne vais pas dire rien, où on a du temps pour faire autre chose. D'accord. L'idée, c'est que l'équipe s'auto-organise sur les 3 projets, tout simplement. C'est redoutable. Hein, on a beaucoup réfléchi comment on pouvait faire ça. On a pas mal hésité. Au final, ils s'organisent tout seuls, sur le board. Donc, ils sont grands. Bon. Il y a les trois projets. L'idéal, et c'est peut-être une chance qu'on a, l'idéal, c'est de faire en sorte que la même équipe... Alors, c'est compliqué quand les projets sont très distincts, où ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres. D'accord ? Quand ils sont suffisamment proches, ou des liens, comme ce qu'on peut avoir à travers le cockpit du futur, hein, la plupart des fonctions vont être à peu près imbriquées. C'est-à-dire qu'on développe une technologie pour un service, pour une nouvelle fonction, mais pour intégrer complètement la fonction au niveau de l'habitacle, au final, c'est souvent des programmes, ça veut dire plusieurs sous-projets au final. D'accord ? Quand on est dans ce type de configuration, et là c'était ce type de configuration, ça marche du tonnerre. Ça marche du tonnerre. Je pense que ça devrait être plus compliqué quand c'est des projets qui n'ont aucun lien au final. Mais ça devrait être possible. Allez-y.
Qui participe ? Le board est là ? Tous les décideurs sont là ? Ou simplement...
Alors, ça, c'est fondamental. Alors, moi, j'ai galéré comme c'est pas possible, hein, pour avoir le board ou les bons décideurs à tous ces événements-là. C'est très contraignant. Tous les mois, toutes les 4 semaines, c'est très contraignant. D'accord ? Solliciter le top management toutes les 4 semaines, c'est compliqué. D'accord ? Donc, après, il y a plusieurs niveaux de décideurs. D'accord ? J'exige qu'il y ait, disons, le premier niveau de décideur. Sans quoi, ça ne sert à rien. Si on ne prend pas de décision, ça ne sert à rien. Voilà. C'était l'objet des premiers esprits. Quand on n'a pas de décision, bon, on se partage l'information au final. On partage une information. Mais s'il n'y a pas de décision, on n'avance pas sereinement. C'est-à-dire qu'on risque de revenir sur quelque chose qu'on a fait. D'accord ? Donc, il faut pousser pour avoir. Donc, ce qu'on fait... Je sais que sur certaines décisions, c'est important de les avoir. D'accord ? Donc, je ne vais pas exiger que le top management soit là. Alors, j'essaie de retrouver mon truc avec... Non. Tac, tac, tac. Voilà. Ou bien... Voilà. Là. Sur certaines décisions, c'est important ou, à mon sens, c'est capital d'avoir le board, sinon ça ne sert à rien. D'accord ? Sinon, on va partager des choses, ça va être très sympa. Mais au final, on risque de revenir sur ce qu'on a fait et tout ça. D'accord ? Donc, c'est en ça où c'est très important, à mon sens, d'avoir des idées claires sur ce qu'on veut valider. D'accord ? Et si la nature de ce qu'on veut valider nécessite l'implication du top management, eh ben là, il faut un peu anticiper, il faut pousser, mais il faut les avoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas les avoir, on ne va pas exiger d'avoir toutes les strates à toutes les sprint reviews. D'accord ? Il faut la première strate, on va dire. C'est-à-dire le responsable de l'innovation. À toutes les sprint reviews, moi je veux le responsable de l'innovation. Le manager du plateau. Vous avez vu, il y a plusieurs plateaux. J'ai une carte du monde quelque part. Voilà. Bon. Par exemple, Brière, je veux le responsable du le manager du plateau innovation de Brière. En général, je veux qu'il est directeur aussi de l'innovation, surtout pour les premières phases, c'était important de les avoir. Je veux ce qu'on appelle les product line. Chez nous, les product line, c'est les personnes qui vont industrialiser. Il y a une partie qui développe, une partie qui industrialise. Je ne vous passe les détails. Ces personnes-là, c'est important qu'elles soient là. D'accord ? Parce qu'au final, le bébé, c'est eux qui vont l'industrialiser. C'est important qu'eux valident les orientations. Donc, et pour certaines décisions, typiquement, les objectifs globaux, ça veut dire là, voilà, quelque part ici, là, ici, pour moi, c'est important que le top management soit là. Là, c'est important. Là, c'est important. Vous l'aurez compris, ça coïncide à peu près avec les jalons. Hein, mais ici, tout le monde sera déjà aligné. Ça veut dire que le patron de l'innovation sera d'accord. Les product lines seront déjà d'accord. Et il n'y a plus qu'à monter d'un cran et aller valider avec le top management pour certaines phases du projet.
La durée d'un sprint review ?
Quand on les fait bien. D'accord. Quand on les fait bien, c'est minimum une demi-journée. Une demi-journée. Mais là, alors c'est pas que, parce que nous, on, dans la sprint review, on parle également du sprint d'après. Voilà. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, l'idée, elle est intéressante de fabriquer un nouveau accoudoir. Je me pose des questions en fait, concernant les étapes avant le sprint zéro. Comment cette idée a émergé? Comment elle a été adoptée au sein de l'entreprise?
Alors, vous voulez parler d'avoir les bugs, ce genre d'approche
En amont de ces étapes-là, en fait.
Comment ?
En amont de ces étapes, il doit y avoir d'autres étapes, processus qui permettent de générer des idées.
Ouais, alors là, on est sur quelque chose d'autre. On est sur le fueling. Hein. Ce que vous voulez traiter, c'est le fueling. Hein, c'est comment on va engranger des nouvelles idées et tout ça. Donc il y a des équipes chez nous qui sont dédiées à ça. D'accord ? Ici, on arrive après le fueling. Les personnes qui ont pensé un peu aux nouvelles idées, aux nouvelles tendances, à ce qu'il fallait embarquer. Et une fois qu'on a une pseudo idée, eh ben, on commence à dérouler nos processus d'innovation. D'accord, mais c'est pas dans mon scope, ça. C'est pas vraiment dans le scope innovation. Voilà. Oui. Allez-y. Ah oui, complètement. Hein. Non, absolument pas. Non, alors, designer, ça veut dire CAD ou c'est designer, cela, styliste ? Oui, oui, bien sûr. Non, les designers sont très tôt impliqués. Ils sont très tôt impliqués. D'accord ? Ils sont très tôt... Bah, le travail de styliste, pas le... Non. Ça ne fonctionne pas comme ça, en tous les cas, pas chez nous. C'est-à-dire que l'homme design va faire du design. C'est-à-dire qu'il va faire, on va lui demander faire le style après, la disposition, les fonctions. Bien sûr, ils sont impliqués très tôt dans le projet. Ils sont impliqués dans le projet. Dans ce projet-là, il y a une personne de design, mais dans la plupart des projets, hein, c'est pas le seul exemple, mais c'est pas eux à qui on va demander de réfléchir aux fonctions. Eux, c'est plutôt la disposition de la fonction, le style de la fonction. Ouais. 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 Hop. Jacques, concepteur. D'accord. Ici, on a un software, quelqu'un qui va faire du programme, qui va faire du logiciel, des choses comme ça. Là, on a un autre concepteur, designer, non dit designer, mais designer au sens celui qui fait le CAD. Concept également. Ça, c'est électronique. Électronique, software, interface homme-machine, ce genre de choses. Voilà. C'est capital. C'est capital. Alors, c'est toujours le dilemme d'avoir tout le temps tout le monde de disponible hein, et d'avoir la core team, le minimum de personnes pour pouvoir fonctionner. Après, c'est ce qu'on intègre comme notion ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est ce qu'on appelle le third party. C'est-à-dire, à un moment donné, on aura besoin d'autres compétences. Mais cette compétence-là, on ne va pas l'embarquer à tous les coups. C'est-à-dire que pour fonctionner, pour dérouler l'ensemble de l'histoire, il va falloir l'homme concept, le designer, la partie électronique, la partie software, nanana. Mais à un moment donné, on risque d'avoir besoin d'une autre compétence. D'accord ? Et ça, on ne va pas la gérer tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va venir pour un sprint, faire le job et redisparaître du projet. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Alors, il y a eu deux épisodes. Deux épisodes. Alors, premier épisode, quand on a lancé les premiers projets pilotes, par exemple, la première équipe sur plateau, ils n'ont pas décidé. D'accord ? J'ai décidé avec le patron d'innovation. Mais là, par contre, on a fait attention au profil. Vous avez vu ? Ah, j'ai plus mon truc. Voilà. Profil. La plupart sortaient de l'école, hein, bien jeunes. Il fallait de l'expérience. Il faut aussi de l'expérience. Donc l'idée, on essaie de combiner, hein, avec des esprits très ouverts, hein, et des esprits, qui vont porter l'expérience. D'accord ? Mais on savait que ça allait être un peu plus compliqué. D'accord ? Aujourd'hui, sur les nouveaux projets pilotes, le succès, c'est beaucoup une question d'état d'esprit au final. D'accord ? Donc les personnes vont faire 80% du job. D'accord ? Donc si les personnes n'ont pas envie, ça ne marchera pas. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. À ça, il y a maintenant sur chacun les trois sites. Donc je vous parle, on les voit pas, mes Scrum Masters. Alors aujourd'hui, j'ai des Scrum Masters certifiés, hein, pour accompagner les équipes en termes de méthodologie et tout ça. Voilà. Allez-y. Bien sûr, c'est le quotidien. Ça, c'est le quotidien. Donc d'un côté, hein, il faut protéger l'équipe. Le principe, c'est de protéger l'équipe. Il faut que l'équipe puisse travailler. D'accord ? Si elle est polluée toujours avec des demandes toujours plus urgentes que les autres, au final, on fait tout plein de choses, mais on n'avance pas sur notre projet. Donc il faut lutter à ça. Ça, c'est le rôle du Scrum Master. D'accord ? Donc Scrum Master, sa mission, c'est de faire ça. D'accord ? Mais après, il faut pouvoir discerner certains aspects. D'accord ? On ne peut pas bloquer tout. Donc après, c'est au cas par cas. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que les demandes soient filtrées. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement voir le concepteur faire « Ah non, mais c'est pas ça, il faudrait que tu changes. Non, tu as plus urgent à faire, il y a une crise à gérer. » Hein, ce n'est pas d'être intrusif, il faut que ce soit filtré. Premier filtre, le Scrum Master, quand ça bloque, ça passe par moi, et après, je règle ça. D'accord ? Et après, on décide. Donc, mais dans plusieurs cas, effectivement, ça fait du sens, ça ne ferait pas de sens de bloquer pour bloquer, d'accord ? Pour tenir des principes. Donc, voilà. Mais ça, c'est malheureusement le quotidien. Voilà. Oui ? Non. Ce qui est important, c'est de donner du sens. Hein, c'est de donner du sens à... Merci à vous. C'est de donner du sens à la prise de décision. Donc, non. Hein, ce qui est important, c'est que sur chaque projet, ben, on prend du temps. Ce qui est important, c'est de prendre du temps au début pour réfléchir comment on va essayer d'organiser ou avoir un premier scénario. Ça va certainement changer. Mais avoir un premier scénario, c'est de dire, ben ouais, première décision, ce serait bien que ça porte sur ces aspects-là. D'accord. Et pour prendre la bonne décision, bon, on va faire quelques cliniques, quelques user experience pour favoriser tel ou tel aspect. Mais il n'y a pas deux histoires pareilles. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière objectif final. Ouais. 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 Ouais, complètement, complètement. Non, il n'y a pas de marge. On fait pas dans ça. Non, je plaisante. Nos objectifs, nos premiers objectifs, sans parler de démarrage industriel, on va dire, d'accord. C'est une autre histoire. Mais ça, bien sûr, on ne peut pas changer. Le client décide de lancer sa voiture en 2020, il faut être au rendez-vous. Quoi qu'il se passe, il faut être au rendez-vous. Hein, sinon, on va plus jouer avec lui. D'accord. L'autre, à mon niveau, les objectifs qui sont importants, c'est les jalons. Il faut les tenir. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est de fluidifier, hein, le développement grâce à l'agile. C'est d'arriver à ces jalons-là avec un zéro risque. Que ce soit rejeté, on va dire. Parce qu'on aura déjà partagé l'ensemble des décisions, au final. Finalement, j'aime bien dire en interne que j'aimerais que faire des jalons un non-événement. Puisque l'ensemble des décisions ont été prises, hein, ils sont dilués et fluidifiés tout au long du processus. C'est-à-dire que le jalon, est-ce qu'il est important? On dit, ah oui, mais si c'est ça, Jelali, on n'a plus besoin de jalon. Mais bien sûr qu'on en a besoin. Il est extrêmement important de figer des niveaux de maturité dans le projet. D'accord? Se dire, ben, notre projet aujourd'hui, il a un niveau de maturité M1 ou M0 ou M quelque chose. C'est pour figer des niveaux de maturité. Ce qui est important, c'est que les décisions elles soient prises tout au long du projet. Et pas seulement pour ces moments-là. On comprend bien que, alors, pour la faire simple, plus on va par là et plus on est vers l'industrialisation. Plus on est sur l'industrialisation, plus on a mis d'argent sur la table. C'est-à-dire que par ici, les lignes sont lancées. D'accord ? Une ligne à plusieurs millions d'euros, une fois que c'est lancé, aller expliquer que c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est très dangereux. D'accord ? Il faut que les décisions soient plus diluées pour arriver ici sereinement, hein, avec une ligne où on sait qu'elle est portée par les équipes d'industrialisation, par les product line, par les équipes innovation, d'accord. Mais c'est important de dire aujourd'hui, voilà, on est mature, on est capable d'industrialiser, on va être capable de produire, et ça, ça traduit la M3. On a figé un état de maturité du projet. Oui, mais on les fait très mal. On les fait encore très mal, je pense. D'accord. C'est un truc qu'il faut qu'on continue à apprendre. C'est ma vision. Je participe pas à toutes les rétrospectives sur les trois sites. Mais de ma fenêtre, je pense qu'on les fait encore très mal. On est encore trop timide pour monter les vrais ponts. C'est ça. C'est-à-dire que moi, d'un sprint à un autre, je vois pas de changement. Entre deux projets sur un même site, je ne vois pas de changement de fonctionnement. Alors c'est soit on fait tout bien, d'accord, soit on n'a pas remonté les bons points à améliorer. Ça pour moi c'est alors oui bien sûr hein, on n'a pas le choix hein. Il y a des normes, il faut pouvoir y répondre. C'est pas traité à travers les sprints, d'accord. Les verrous hein, ils vont être plus à ce niveau-là. Hein. C'est le système qualité, le processus de développement fait partie. C'est-à-dire que ce truc-là, il faut y répondre. On jette pas ça à la poubelle. Mais le comment on va faire ça, c'est à ça que répond l'agile. D'accord ? Donc oui, il faut. Là, pas de discussion, il faut. Il faut simplifier. Hein. Il y a pas mal de discussions. Il faut simplifier. Il faut aller au quand c'est justifié. Quand il faut faire. Mais il y a tout un tas d'aspects administratifs. Pour lequel il ne faut pas se polluer, pas pour les premières phases en tous les cas. Hein, il faut clarifier les orientations, il ne faut pas commencer à faire de la documentation pour mieux constituer les objectifs, les exigences, travailler dans un formalisme client-fournisseur ou quelque chose comme ça, où on va se bétonner, ce genre de choses. Quoi. Mais à la fin, bien sûr, il faut être en phase avec les normes. Là, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ce soit fait. Ouais. Merci à vous.